grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud maundi
chenni biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Nous sommes jeudi 19 juin 2014. Le débat d'aujourd'hui réfléchit sur l'orpaillage traditionnel, les raisons et les conséquences. Comme d'habitude, nous avons trois axes pour ce débat. Les raisons de l'orpaillage traditionnel, ses racines, les conséquences et les risques de l'orpaillage traditionnel, l'impact économique et sanitaire de l'orpaillage traditionnel au Mali. Nos invités, Kaman Sidibé de la Chambre des Mines du Mali, Lassana Guindo du ministère des Mines, Gaido Sissoko, porte-parole de la Fédération nationale des Mines, Sidiki Kamara, troisième adjoint au maire de Kangaba, est en route pour ce débat. Nous avons également Bakary Magasuba de la Fédération des orpailleurs traditionnels du Mali. Merci messieurs pour votre disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique.
Studio Tamani.
Les exportations d'or du Mali, troisième producteur d'Afrique, ont augmenté à 67,4 tonnes en 2013 en raison du dynamisme de l'orpaillage traditionnel au Mali. Un afflux de travailleurs et la mécanisation accrue ont contribué à augmenter les exportations artisanales à 20,7 tonnes. Ces exportations artisanales étaient de seulement 1,6 tonnes l'année précédente. Selon les responsables de la Chambre des Mines du Mali, les limitations imposées dans l'exploitation minière artisanale au Ghana, au Sénégal et au Burkina Faso ont attiré plus de travailleurs dans les mines du Mali et entraîné l'augmentation de la capacité productive du secteur. Un autre facteur derrière l'amélioration de l'orpaillage traditionnel au Mali, le grand afflux de matériel d'exploitation minière de la Chine. Selon les experts, cela représente plus de 500 000 détecteurs d'or, le même nombre de concasseurs et plus d'un million de motos attelées à des chariots utilisés dans l'industrie minière. Alors, les racines, que faut-il retenir comme racine de ce phénomène d'orpaillage traditionnel? Là, je m'adresse à M. Sidibé. Comment est vraiment Sidibé?
Je vous remercie. Et je crois que je peux me permettre de vous remercier et Studio Tamani au nom de tous ceux qui sont autour de la table pour parler de l'orpaillage, de façon à ce que ce remerciement qui est global puisse ne pas trop empiéter sur le temps qui nous est
imparti.
Merci
de le signaler.
Voilà. Donc je voulais dire que l'orpaillage est, on ne va pas dire traditionnel, on va dire simplement l'orpaillage, qui est l'activité qui consiste à l'exploitation d'une substance minérale précise qui est l'or. Et le terme vient de ce que c'est des petites paillettes d'or que des artisans traditionnels s'autorisaient de ramasser dans les lits des fleuves ou partout où cela était possible. Donc l'orpaillage, c'est cette activité-là. Elle est aujourd'hui codifiée dans notre pays. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'orpaillage est une activité multiséculaire au Mali. J'ai dit même une activité millénaire. Parce que l'orpaillage a commencé avant le Mali, avant l'Empire Songhai, avant le Mandé et depuis l'Empire du Ghana, depuis Ouagadougou. Donc c'est là-bas déjà qu'on disait Kosanu Sanji Jigrasis, Makayam Rancisouka.
La pluie d'or est tombée sur Kayam Rancis.
Voilà, sur les Sissé, sur les rois du Ouagadougou de l'époque. Et il semble que c'est, on va dire, on est en train en fait maintenant de dire le mythe de l'orpaillage malien. Et on a dit que c'est lorsque le python de Koumbi Salé a été décapité que sa tête est allée tomber dans le Bourin, qui est un autre royaume parti de l'Empire du Ghana. Et c'est ce royaume qui est devenu une partie de l'Empire du Mandé, qui est devenu le principal territoire où l'activité était exercée. Donc c'est ça qui a permis, dit-on, à Kankou Moussa d'envoyer à peu près 9 tonnes d'or en 1325 à la Mecque, de faire connaître le Soudan désormais, le Mandé et plus tard le Soudan. Et nous pensons même que c'est cet orpaillage qui a justifié que la colonisation nous a recherchés pour la richesse des noms.
Et l'exploitation. Alors nous avons un membre de cette fédération des orpailleurs du Mali, Bakary Magasuba. Dites-nous aujourd'hui si l'origine de l'orpaillage est toujours en phase avec la modernité aujourd'hui. Vous êtes né dans ça.
C'est du père au fils. Donc, au fin de l'eau, il y a un peu de temps,
Donc c'est depuis les
voilà comme c'est les à Fochogo
voilà les empires
donc sanuko nana ni na boloni fait
d'accord
donc alors, fin lo bon vraiment wa ama fo manding wa ko kala saba de ben manding dabakala marfa kala soli kala.
Selon vous, il y a trois piliers. Donc, d'accord. Merci beaucoup, Bakary Magasuba. Je me tourne vers Lassana Guindo du ministère des Mines du Mali. Dites-nous, les propriétaires terriens sont-ils aujourd'hui spoliés des terres dans les zones aurifères au profit des entreprises minières? Est-ce que c'est ce fait qu'on annonce est vérifié sur le terrain?
Merci beaucoup. Je crois qu'au-delà vraiment de la description de leur paillage et du commentaire que M. Sidibé a eu à faire, je vais vous éclairer quand même sur la question que vous venez de poser. Vous savez qu'au Mali, l'activité minière est régie par une réglementation et il y a une loi minière. En plus de tout cela, il y a une politique qui sous-tend cette activité. D'un côté, il y a l'activité industrielle. D'autre part, vraiment, il y a l'activité artisanale. La cohabitation qui existe vraiment entre les deux activités. Ce que nous constatons vraiment ces derniers temps, il y a quand même l'orpaillage d'antan qui n'existe plus actuellement. L'orpaillage qui était traditionnel, il a dit tout de suite qu'il y a trois piliers.
Trois piliers, oui.
Là-bas, je crois que ça n'existe plus. L'orpaillage est sorti de son contexte. Nous avons vu l'introduction vraiment d'une certaine mécanisation. On utilise, comme vous l'avez dit, dans l'introduction des détecteurs de métaux, on utilise des concasseuses aujourd'hui. Ça dit, il y a eu quand même l'introduction de la machinerie. Donc dans ce cadre, nous-mêmes, nous avons eu quelques difficultés du point de vue législatif, du point de vue réglementaire, quand même, pour bien gérer l'activité. Ce qui ne dit pas son nom, dans le temps, l'orpaillage traditionnel, il n'y avait aucun problème. Il y avait la cohabitation, ils travaillaient dans les couloirs d'orpaillage, comme le dit vraiment les textes. Du fait que l'activité a changé de dimension, on est vraiment dans un autre système où vraiment il n'y a pas le respect de la légalité en vigueur. Donc ça amène quelques petites difficultés.
Alors, les racines aujourd'hui, Gaïdo Sissoko, vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des mines. Alors, les racines, est-ce qu'on peut connaître avec vous quelques fondements de l'orpaillage traditionnel au Mali?
Ok, merci M. Sidibé de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur l'orpaillage traditionnel.
Je ne m'y connais pas assez parce que c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes dans le domaine moderne, l'exploitation avec les entreprises minières. La Fédération nationale, c'est une organisation des travailleurs miniers qui sont dans les usines. Nous ne sommes pas tellement plongés dans l'orpaillage traditionnel. C'est ces derniers temps d'ailleurs avec l'afflux des chômeurs, les licenciements dans les différentes entreprises minières que certains travailleurs du domaine moderne se retrouvent dans l'orpaillage traditionnel.
Alors, à côté des mines, il y a certes des sites d'orpaillage.
Obligatoirement, il y a des sites qui se multiplient à côté des entreprises minières. C'est compte tenu de la précarité de l'emploi, surtout que les employés s'affluent au niveau de ces sites miniers. Généralement, à côté des villageois, il y a beaucoup d'anciens travailleurs qui se retrouvent dans ces sites miniers. Avec l'exploitation semi-moderne, comme l'a dit M. Guindo, tantôt avec des machines chinoises, les anciens travailleurs se procurent pour être plongés dans ces domaines en vue de se procurer le minimum vital. Voilà.
Alors, je me tourne vers Sidiki Camara qui vient de faire son entrée ici dans ce studio, troisième adjoint au maire de Kangaba. Dites-nous, quels sont qu'est-ce qui pousse aujourd'hui vos populations à aller vers cette activité qu'est l'orpaillage?
Ok. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité un peu d'attirer l'attention de l'opinion nationale aussi bien que de l'opinion internationale de ce que le monde que je vais appeler le monde des orpailleurs au Mali vit actuellement. Vous êtes pas sans savoir, avant d'entrer de jeu dans le vif du sujet, je fais un petit rectificatif. Je suis plutôt le troisième adjoint au maire de la commune rurale de Nouga.
De Nouga.
Et qui a été la plus grande victime des communes, si je peux m'exprimer ici, du cercle de Kangaba, par rapport aux difficultés que nos populations locales rencontrent avec les industries minières. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est cette bande que je peux appeler, entre guillemets, le Mandé, parce que ça peut continuer jusque dans la région de Kaï, c'est une activité séculaire. Quand on remonte un peu du temps de Kankou Moussa, c'est que le Mali est un pays aurifère de culture. Et cette activité était menée concomitamment avec l'agriculture dans toutes ces zones. Comme l'a dit aussi M. Guindo, c'est qu'il y a eu, cette activité a subi des évolutions technologiques, tant du niveau des industriels que du niveau des orpailleurs.
Traditionnels.
Voilà. Et comme l'a dit aussi M. Cicero, c'est qu'il y a deux mondes que les gens n'arrivent pas à faire le distinguo. Il y a la fédération des miniers, entre guillemets, que je peux appeler des industries minières, et il y a la fédération nationale des orpailleurs. Donc, mais les deux doivent évoluer en symbiose. Quand je dis en symbiose, tout ce qui doit concerner le secteur, ils se doivent de se concerter, d'aplanir d'avance leurs divergences. Même si cela est regrettable, ce n'est pas le cas.
Vous pensez qu'il y a un manque de concertation entre ces deux entités?
Oui, tout à fait. Et je le dis en connaissance de cause. Parce qu'il y a déjà, et vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie minière, c'est un lobbying très fort. C'est un lobbying très fort. Et c'est vrai, quand ils viennent dans un pays, et il y a toute une batterie qui met en jeu pour défendre leurs intérêts.
Alors vous êtes là justement pour défendre les intérêts de vos populations. Nous allons continuer ce débat qui m'a l'air de prendre un peu le rythme des choses. Chacun veut parler. Je vais vous donner la parole juste après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douanza, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Al Farouk de Tombouctou, 98 MHz, Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous nous suivez partout au Mali grâce à nos nombreuses radios partenaires et notre site web également est à votre disposition pour soit suivre ce débat en direct ou réécouter nos journaux au www.studiotamani.org. Nous sommes à la deuxième partie de ce débat qui porte sur l'orpaillage traditionnel, ses racines et ses conséquences. Cette deuxième partie est consacrée aux conséquences et aux risques de l'orpaillage en cette période hivernale. Kaman Sidibé est l'un de nos invités de la Chambre des Mines, Lassana Guindo du ministère des Mines, Gaïdo Sissoko, porte-parole de la Fédération nationale des Mines, et Sidiki Kamara, il est le troisième adjoint au maire de la commune de Nouga, si c'est bien ça.
Exactement. Voilà.
Donc, les conséquences et les risques de l'orpaillage. Y a-t-il une réglementation aujourd'hui autour de l'orpaillage au Mali? Là, je m'adresse à Kaman Sidibé, monsieur Sidibé.
Merci de me faire intervenir sur cette question qui est, à mon sens, la question essentielle qui doit être résolue. La question de la réglementation. La question de la nécessité pour tous les acteurs du secteur de se conformer aux textes qui régissent le domaine. Nous avons un code minier, comme l'a dit M. Guindo. Ce code minier-là doit être respecté par tout le monde. En principe, l'orpaillage ne peut pas se faire n'importe où. C'est comme tu ne peux pas aller rentrer dans la maison de quelqu'un dire que tu veux faire un puits pour boire de l'eau. Le code, la loi au Mali a dit que l'orpaillage doit se passer dans des couloirs d'orpaillage. Et ces couloirs d'orpaillage sont à délimiter pour le compte des collectivités territoriales.
Alors, est-ce que
nous venons de déterminer qu'il y a 114 communes dans lesquelles il peut y avoir de l'orpaillage.
114.
Et en principe, toutes ces 114 communes ont droit à leur couloir d'orpaillage.
Alors, est-ce que cela est respecté?
Non, pour l'instant, c'est vers ça que nous sommes en train de nous acheminer. Et je pense qu'il y a une nouvelle dynamique au niveau du ministère des Mines. Mais pour que cette disposition légale-là soit respectée, donc nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers un forum national qui va venir poser l'ensemble des problèmes. À mon avis, il ne s'agit pas de dire, écoutez, les populations ont fait... Que ce soit les populations... Les choses ne peuvent pas être faites selon la volonté d'un seul. Ça ne peut pas être fait selon la volonté d'un ministre. Les choses ne peuvent pas être faites selon la volonté d'un petit groupe. Ça ne peut pas être fait selon la volonté des orpailleurs ni selon la volonté des sociétés minières.
Donc vous...
Les choses ne peuvent se faire que selon la loi. Ce que la loi a dit, c'est ce qu'il faut que nous fassions. Et si nous estimons que cette loi-là, elle n'est pas suffisante pour réglementer correctement le domaine, nous procédons donc à ce qu'on peut appeler une révision des dispositions légales qui régissent le domaine. C'est pourquoi je me permets de encore maintenir la parole pour dire que les questions relatives à la mécanisation de l'orpaillage, mais c'est pas un problème, c'est pas une question qui doit être un problème, c'est pas insoluble.
Okay.
Si notre système juridique ne permet pas aujourd'hui, d'ailleurs ça le permet puisque ça prévoit l'exploitation artisanale mécanisée, donc l'exploitation artisanale avec des instruments et des équipements et des machines.
D'accord. Très difficile de tenir la parole à un doyen, mais quand il s'agit de la donner à un autre, je me permets de le faire. Lassana Guindo du ministère des Mines, aujourd'hui il y a une loi. Est-ce que cette loi est appliquée?
Merci. Nous avons, ces derniers temps, il y a beaucoup de difficultés de gestion de cette frange quand même artisanale. Ce n'est pas parce que les textes et les règlements n'existent pas, mais c'est une difficulté, c'est grâce à des difficultés d'application vraiment de cette loi sur le terrain. Comme je le disais en introduction, je disais que cette activité est aujourd'hui sortie de son contexte. La loi parle vraiment de l'orpaillage artisanal et du mécanisé. Et pour pouvoir... Compte tenu même du contexte même de l'activité, il y a une partie de l'orpaillage, notamment celle traditionnelle, qui a été conférée aux communautés locales. C'est-à-dire les maires, les collectivités territoriales qui doivent les gérer
avec l'appui des services techniques. Nous avons vu qu'en cela, il n'y a pas de collaboration du tout. La collectivité territoriale, malgré l'inexistence vraiment de ressources humaines pour leur
venir en aide,
ils ne viennent pas du tout à l'administration pour quand même bénéficier de services techniques. Et l'activité mécanisée maintenant doit être autorisée par un arrêté du ministre. Et ce qui n'est pas fait aussi. Donc c'est ce qui amène toutes les difficultés. Nous ne sommes pas contre vraiment cette activité mécanisée. Mais il faudrait qu'elle se passe vraiment dans les règles là. Okay. Donc ça améliore vraiment la cohabitation entre les deux branches d'activité. Comme je le disais vraiment au début, c'est la politique minière qui voudrait qu'il y ait également un développement de l'artisanat minier au même titre que l'agriculture, que l'élevage et que toute autre activité.
Alors, Gaïdo Sissoko, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des mines. Tout à l'heure, Monsieur Camara expliquait qu'il y avait un manque de concertation entre vous et les orpailleurs traditionnels. Est-ce que vous confirmez cela et si vous avez également des choses à ajouter à ce que nous a dit Monsieur Camara?
Ok, merci M. Sidibé. Je ne fais que confirmer ce que M. Camara a dit, effectivement. Même si nous nous retrouvons quelque part dans la même centrale syndicale, aujourd'hui nous pouvons certifier clairement qu'il n'y a pas de concertation entre les deux acteurs.
Mais pourquoi tant de difficultés?
Malheureusement, les difficultés résident dans le fait que cette dynamique n'a pas été prise en compte, ni par les européens eux-mêmes, ni par le syndicat de la Fédération des mines. Et c'est quelque chose qu'il faut déplorer, puisque en regardant les deux activités, on peut être confronté au même problème. Et pour avoir une solution à de tels problèmes, il faut que les deux activités se retrouvent dans la même dynamique, c'est-à-dire dans la même organisation. Il est impératif aujourd'hui, comme l'a dit M. le maire, que très prochainement, au niveau de la centrale, qu'une réflexion soit menée dans ce sens pour amener tous ces acteurs-là dans la même dynamique. Alors, je vais profiter, si vous me permettez, rapidement, de bondir sur l'intervention du doyen par rapport à l'application des tests. Aujourd'hui, les lois dans ces pays, c'est vrai, il y a beaucoup de lois qui réglementent beaucoup d'activités, mais nous déplorons le fait qu'il y a ces lois-là qui ne sont pas appliquées à tous les niveaux. Nous, au niveau du syndicat, nous sommes confrontés à ces problèmes. Puisque, je le dis en connaissance de cause, il y a 3 mois, nous étions là dans cette même salle avec certains doyens qui sont du secteur minier. Monsieur Ba, je le dis, je ne sais pas s'il m'entend. Nous avons discuté un peu du problème auquel les travailleurs miniers sont confrontés. Ces licenciements abusifs qui ont été opérés. Il me paraît opportun de le souligner de passage et qu'il y a des actes juridiques qui sont là, qui ne sont pas encore appliqués. Et si les tests sont faits pour tout le monde, ils doivent s'appliquer sur tout le monde.
D'accord. Ceci est compris. Sidiki Camara, troisième adjoint au maire de Nouga, de la commune de Nouga. Le représentant du ministère des Mines parlait tout à l'heure de manque de concertation entre les collectivités et les services techniques. Okay. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette remarque?
Merci bien, M. Famoussa. Je voudrais tout juste rectifier quelque chose avec le douanier.
Sidibé,
vous savez, la loi 2012-015 du 27 février 2012, si je peux le dire, a été taillée à la mesure des industriels. En ce sens que, on ne va pas rentrer dans le juridisme. Et il y a quelque chose que le doyen aurait passé sous silence. S'il y a eu décentralisation, moi je déplore plutôt la décentralisation dans le domaine minier. Je vais essayer de faire un petit résumé pour que vous compreniez rapidement. Vous saviez, il y a eu la décentralisation avec la libre administration des territoires, qui veut dire que le pouvoir des maires, des collectivités territoriales ont été renforcés. En ce sens, ce qui concerne votre commune, le maire étant le premier magistrat de sa commune, il doit être impliqué au plus haut niveau dans la prise de décision qui concerne la vie de sa commune. Tel n'est pas le cas. Pour preuve, les permis sont attribués au Mali sans avis des collectivités territoriales. Et je le ferai avec des preuves aussi à l'appui.
Je reconnais au même moment quand M.
Les permis d'exploitation.
Non, il y a deux. Il y a le permis de recherche et il y a le permis d'exploitation. Je parle bien sûr sur le contrôle de M. le directeur, M. Guindo, qui, au moment où il était aux affaires au niveau de la DNGM, a fait beaucoup d'actions. Et j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui, pourquoi ? Parce qu'en février, lorsque le code minier a été relu, c'était à la demande des industriels. Et moi, je le dis aussi en connaissance de cause, parce qu'à l'époque, c'était des fonds vautours qui tournaient au Mali.
Aidez-nous à comprendre ce terme.
Quand je dis c'est des fonds vautours, vous savez, c'est des gens qui se font passer comme des professionnels de l'industrie minière. Ils viennent payer les permis de recherche au Mali et après ils vont aller vendre ça sur le net ou avec d'autres partenaires. Et en réalité, c'est des propriétaires écrans au Mali que nous voyons. Et lorsqu'il y a des problèmes, les mêmes lobbying interviennent, via même le ministre. Quand je disais que j'avais peur même pour M. Guindo, il ne peut pas le dire. Parce que sa position actuelle ne lui permet pas de le dire. Mais moi, je peux le dire. Il y a eu des permis de recherche au Mali qui ont été signés sans son avis. Et moi, j'ai ces preuves. J'ai dit bien, étant le service technique qui doit faire l'étude technique et donner son avis technique, était ignoré carrément par certains ministres de la République.
Alors là, nous sommes à une plus grande échelle. Nous parlons de l'orpaillage traditionnel aujourd'hui. Non, il y a juste une remarque sur laquelle je voudrais que vous reveniez, si vous permettez, M. Sidibé. Oui. Celle que M. Guindo a fait tout à l'heure concernant l'implication des collectivités dans le fait de passer sous silence certaines activités comme ceux qui viennent s'installer de façon un peu anarchique dans les communes et exercer en toute impunité.
Voilà. Voilà. Je vais vous dire, vous savez que dans le temps...
Moi, je crois que...
Monsieur Sidibé, je vais vous donner la parole. Laissez juste, camarade.
Sidibé,
allez-y.
Moi, je pense que c'est un débat qui doit être constructif.
Mmh. Allez-y.
Et chacun aura un droit de réponse. Et il ne s'agit pas des accusations.
Nous avons 45 minutes pour cela.
Moi, je vais aller tout droit au but. Vous savez que dans le temps, c'est les orpailleurs locaux partaient par rapport à certaines indications naturelles à travers les arbres ou quelques signes des mares et autres là pour dire que c'est possible qu'on ait de l'or ici et c'est possible qu'on ne l'ait pas ici. Et c'est des gens, comme l'a dit M. Guindo, et dans le temps on parlait des signes avec des arbres et autres là pour voir telle
partie. Aujourd'hui il y a les détecteurs.
Maintenant il y a les détecteurs. La plupart des sites d'orpailleurs sont créés, si je me permets, à travers ces détecteurs. Quand il y a quelqu'un qui prend 500 grammes ou bien 1 kilo, pif, tout le monde se rue là-bas.
Est-ce que vous avez les moyens de sévir ?
Si, on a les moyens de sévir, mais on n'a pas les moyens aussi de sévir. Quand je dis qu'on a les moyens, il faut qu'on soit impliqué en amont lors de la prise des décisions. Maintenant, en aval, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens, pourquoi ? Vous savez que quand un site d'orpailleur se crée, c'est plusieurs nationalités qui viennent et la plupart du temps, c'est des gens incontrôlés. Ça, il faut le reconnaître. Alors, le manque de collaboration, comme M. Guindo l'a dit, et quand vous allez voir les recommandations des États généraux de la décentralisation, ça figure en bonne partie sur ce point. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans tous ces détails. Mais la collaboration, moi, j'ai eu personnellement plusieurs rencontres avec M. Guindo, à qui je remercie ici.
D'accord.
Il a été toujours disponible lorsque je viens lui poser un problème technique. J'ai eu même à suivre un cours magistral de la géologie avec lui.
Alors, je vais donner la parole à Kama Sidibé. Oui, c'est bien ça, hein, oui, Kama Sidibé, au risque de payer une cola aujourd'hui.
Non,
mais je ne pourrais le faire qu'après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Un grand merci à nos auditeurs de la radio Diamana de Djéné, la charmante ville qui abrite à ce jour une mosquée, la plus grande construction en terre battue au monde. Voilà une grande richesse culturelle dont le Mali est assez fier. Revenons donc à ce débat qui parle de l'orpaillage traditionnel, ses racines et ses conséquences. Cette troisième partie est consacrée à l'impact économique et sanitaire de l'orpaillage traditionnel au Mali. Nos invités, Kaman Sidibé de la Chambre des Mines du Mali, Lassana Guindo du ministère des Mines et Gaïdo Sissoko, porte-parole de la Fédération nationale des mines, sans oublier Sidiki Camara, troisième adjoint au maire de Nouga. C'est bien ça. Alors, M. Kaman Sidibé veut prendre la parole, donc je vous donne la parole. Mais d'abord, que représente en termes de chiffres l'orpaillage traditionnel dans l'économie malienne?
Mais je crois que vous-même, vous l'avez déjà annoncé. 2013, 20 tonnes qui sont supposées avoir été produites ailleurs que par les industries qui ont produit 47 tonnes. Ça veut dire que l'orpaillage, c'est une machine à produire de la richesse. Mais sur ce point, où va cette richesse? Est-ce qu'elle reste au Mali? Est-ce qu'elle va ailleurs? À mon avis, c'est une question qui est une question d'actualité qu'il faudrait bien poser et à laquelle il va nous falloir absolument trouver une réponse adéquate et satisfaisante. Mais mon propos, et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est qu'il est impératif que lors d'un débat de ce genre, que nous nous en tenions à l'évocation de ce pourquoi nous avons été invités.
Tout à fait.
Donc moi, je souhaite qu'on ne fasse pas de ce débat le procès de quelqu'un. Moi, je pense que ce débat doit plutôt nous servir à échanger pour trouver les meilleurs moyens pour faire en sorte que l'orpaillage puisse être un domaine non seulement d'absorption du chômage des jeunes de ce pays, un domaine de production de richesse, donc de lutte contre la pauvreté, un domaine en fait de développement durable. Et c'est dans cette dynamique que la Chambre des Mines est lancée depuis, et c'est dans cette dynamique que petit à petit le ministère est en train d'arriver. Maintenant, sur la question de la décentralisation. Mais le code minier a pris la décentralisation en compte,
là, nous ne sommes plus dans la deuxième partie.
J'insiste pour que cette partie-là soit connue de nos auditeurs.
Ce qui est fait.
Mais parce que en fait, quand ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays, c'est des lois, un pays, c'est des règles et c'est des principes qui doivent être observés et appliqués par tous. Sinon, c'est un pays qui s'écroule comme le nôtre s'est écroulé. Il faut que vous me laissiez terminer ça. Parce qu'en principe, dans ce pays, personne ne peut prendre même un seul gramme sans y avoir été autorisé. Que ce soit des orpailleurs ou que ce soit des industries minières. C'est quelqu'un qui autorise ça. Et la loi a prévu que les collectivités territoriales doivent autoriser les orpailleurs. Mais dans le cadre de leur couloir d'orpaillage, si un maire n'a pas de couloir d'orpaillage et qu'il signe une autorisation d'exploitation, il est hors la loi et en principe, on doit lui signifier ça.
Alors, les orpailleurs aujourd'hui sont en danger car ils utilisent des produits prohibés. Dites-nous ce que ces produits, l'utilisation de ces produits a comme impact aujourd'hui.
Mais un impact considérable. Un impact considérable sur l'environnement. Il y a deux produits essentiellement qui sont utilisés dans des conditions d'utilisation très précaires, puisque sont le mercure et le cyanure et d'autres acides par les orpailleurs pour booster, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, pour améliorer leur gain en matière d'accaparement donc de la substance minérale qui constitue l'or. Ils font ça pour amalgamer donc les métaux ferreux dans la boue qu'ils ont faite, parce que maintenant, laver avec avec la calebasse et les tamis, ça ne suffit plus. Donc,
peuvent-ils se passer de ces produits chimiques aujourd'hui?
Mais on s'en passe. Il y a des programmes même qui sont déjà en marche dans d'autres pays. Et ce programme aurait dû être mis en application chez nous si nous n'étions pas en crise, que l'on appelle le programme or équitable, qui est là, qui veut montrer qu'on peut faire de l'orpaillage sans l'utilisation du cyanure ou bien du mercure.
Est-il possible, M. Guindo? Voilà. Comment?
Merci. De la manière dont l'orpaillage est pratiqué aujourd'hui, je crois que ça constitue un fléau. Nous ne tirons aucun avantage vraiment de cette activité.
Alors,
à l'instar des autres pays de la sous-région, je crois que l'activité est bien cadrée dans ce village, avec le respect de toute la législation en vigueur. Pour parler vraiment de l'impact, des impacts de l'orpaillage, je crois que c'est dans beaucoup de domaines vraiment de la vie courante. Il y a un problème de santé publique, il y a des impacts vraiment sur l'environnement. Tout récemment, nous apprenons que des enseignants, des élèves arrêtent avec l'éducation vraiment pour être dans le site d'orpaillage et ils se déplacent de site en site. Quant à l'impact, je crois que l'impact, il est très très difficile vraiment de le mesurer aujourd'hui. On a parlé quand même de l'augmentation de la production d'or à travers une grande quantité venant de l'artisanat minier. Nous-mêmes, nous l'avons constaté dans les statistiques. Au lieu de 47 tonnes provenant de l'industrie, de l'exploitation industrielle, nous avons 67 tonnes. Donc la différence vraiment provient de l'artisanat minier. Quel profit l'État a tiré vraiment de cela? Je peux vous assurer également que tout cet or ne vient pas du Mali, compte tenu vraiment de la fluidité entre les frontières. L'or peut venir vraiment de la Guinée, transiter par le Mali, venir du Sénégal, venir du Burkina. Donc nous sommes en train de conduire une étude maintenant pour vraiment essayer d'élucider toutes ces informations. Pour ce qui concerne vraiment le volet sanitaire, l'utilisation, notamment l'utilisation des produits chimiques, le mercure, le cyanure, je crois que, comme il a dit M. Sidibé, il y a quand même un projet de par rapport au mercure, compte tenu vraiment même de la dangerosité de ce produit. Le mercure, c'est un produit qui non biodégradable. Sur les sites d'orpaillage, il n'est pas rare de voir les gens le manipuler vraiment
à main nue.
Et il inhale vraiment ces vapeurs de mercure. En plus de tout cela, le cyanure qui a été introduit par des orpailleurs étrangers, venant du Burkina, du Ghana, du Sénégal, je crois que ça aussi vraiment c'est un danger parce que le travail il n'est pas fait dans toutes les règles.
Alors, est-ce que vous avez un droit de regard, monsieur le maire, sur tout ce qui se passe sur les sites miniers?
Oui, et nous avons un droit de regard sur le site minier à travers une organisation locale que nous appelons les tombolomans, qui sont plus craints que les forces de l'ordre.
C'est-à-dire des organisations créées par les orpailleurs eux-mêmes?
Tout à fait, avec les coopératives d'orpaillage. Vous savez que sur chaque site, il y a des organisations, des orpailleurs, et que nous appelons les tombolomans.
C'est comme des syndicats.
C'est comme des syndicats, mais c'est ce qui est... Ils font que je peux appeler, entre guillemets, la réglementation locale. En ce sens que toutes les infractions qui peuvent se passer sur les sites d'orpaillage, avant même l'implication des autorités, ce sont ces organisations traditionnelles, sinon locales, qui s'impliquent en premier lieu. Il y a toute une batterie de mesures qui sont mises en branle immédiatement lorsqu'il y a une violation. Et l'autre aspect que je suis tout à fait d'accord avec mes deux prédécesseurs, M. Sidibé et M. Guindo, c'est que l'impact sur l'environnement est vraiment considérable. Mais avec l'évolution, ces gens-là utilisent moins actuellement de cyanure ou de mercure, même si tout ça n'a pas totalement disparu, il faut reconnaître. Parce qu'avec les détecteurs, ils creusent moins maintenant en profondeur.
Alors, est-ce que ces orpailleurs payent des taxes aux communes?
Voilà. Contrairement, et sans faire le procès, les industriels risquent de dire que je les en veux la mort, mais c'est une réalité et il ne faut pas qu'on se cache la face. S'il y a l'impact, c'est plutôt au niveau du budget d'État. Parce que comme l'a dit M. Guindo, sur le PIB, quand vous allez voir par exemple l'apport des industriels, mais au niveau des collectivités locales, décentralisées, il y a peu de communes qui profitent ou qui bénéficient de l'impact de l'implantation d'une société minière dans sa commune. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ont bénéficié des infrastructures, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus.
Alors là, c'est, vous parlez des industriels, mais aujourd'hui, on parle des orpailleurs. Oui. Est-ce que ces orpailleurs payent des taxes aux communes?
Les orpailleurs, ils payent des taxes aux communes. Et on a une taxe qui est communément appelée la taxe d'orpaillage. Et ça est dans la loi. Et c'est payé par des orpailleurs à travers ce qu'on appelle les organisations locales qui sont nos relais sur les différents sites que sont les tombolomas et autres.
Ces taxes vous servent à quelque chose?
Beaucoup, beaucoup. Je m'en vais vous donner par exemple l'une des taxes qui renfloue même notre caisse principalement de la commune de Nouka, et que nous appelons la taxe sur les détecteurs de métaux. Cette taxe fait 100 000 francs par mois.
Détecteur.
Non, 100 000 francs par détecteur et par mois. Ce qui fait qu'un seul détecteur évoluant dans la commune nous rapporte à peu près 1 million 200.
Et vous en avez combien dans votre commune?
Ça dépend. On ne peut même pas contrôler souvent.
D'accord. Alors, chacun a 30 secondes. Nous sommes pratiquement à la fin. Chacun aura 30 secondes pour son dernier mot. Je commence par Guido Sissoko. Guido Sissoko, vous êtes membre d'une fédération, la Fédération nationale des mines. Aujourd'hui, vous représentez les travailleurs des mines industrielles. Est-ce que ces travailleurs qui ne sont plus actifs, si je peux dire, dans le monde du travail, ont aujourd'hui se sont reconvertis à l'orpaillage?
Il y a beaucoup qui l'ont déjà. Ils se sont reconvertis parce que, vu la précarité de l'emploi, ils sont obligés de faire recours à d'autres activités pour nourrir leur famille. Je dis, compte tenu de l'importance de cette activité, elle mérite d'être suivie par les plus hautes autorités.
Alors, un dernier mot.
Le dernier mot, c'est que je remercie le CIO Tamani pour ce débat, combien de fois constructif. Mais un rappel, je suis inquiet par rapport aux déclarations qui ont été faites ici. L'utilisation du cyanure dans le domaine traditionnel, c'est très grave. Et si cela est réel, j'interpelle les autorités à ce que cela s'arrête immédiatement.
Ils vous ont entendu. Alors, Monsieur Guindo, Lassana Guindo du ministère des Mines.
Merci, nous sommes conscients des difficultés vraiment autour de gestion de l'activité artisanale. Mon dernier mot, c'est qu'au niveau du département des mines, nous sommes en train de conduire des activités aujourd'hui par rapport à l'encadrement, par rapport à l'organisation de cette activité, pour que nous puissions profiter au maximum. Je crois que le temps imparti est très très peu. Je crois qu'on attend un autre round vraiment pour essayer de beaucoup sensibiliser les différents acteurs sur l'orpaillage.
Merci beaucoup.
Un bon orpaillage pour que ça puisse profiter à tout le Mali.
Merci beaucoup, M. Guindo. M. Sidibé.
Bon, moi, naturellement, en fait, ma fonction, c'est juriste de la Chambre des mines. Donc, les questions de loi, les questions de règlement, les questions de principe juridique sont les questions essentielles chez moi. Et je pense que ce n'est qu'en nous conformant à ce que la loi a dit en matière d'organisation de l'orpaillage que nous allons vraiment l'organiser d'une façon correcte.
Merci beaucoup.
La Chambre des Mines est dans cette dynamique avec des projets que mettre ensemble.
Monsieur le maire.
Merci bien, Monsieur Famous. Moi, je vais tout simplement réitérer ma demande à ce qu'une nouvelle table ronde puisse être organisée afin d'approfondir un peu les riches idées qui
nous le ferons
ici.
Très prochainement, Monsieur le maire.
Et aussi, mon mot de fin, c'est vraiment dire que la loi sur le code minier, elle est injuste et imparfaite.
Et remercier Tamani, non?
Non, je reviens, ça, j'allais conclure.
Merci beaucoup.
tous mes remerciements à Tamani.
Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le sujet du jour portait sur l'orpaillage traditionnel, ses racines et ses conséquences. Les trois aspects développés dans ce débat, les voici. Les racines de l'orpaillage traditionnel, ses conséquences et ses risques, l'impact économique et sanitaire de l'orpaillage au Mali. Nos invités, Kamansi Libé de la Chambre des Mines, Lassana Guindo du ministère des Mines, Guido Sissoko, porte-parole de la Fédération Nationale des Mines, et Sidiki Kamara, troisième adjoint au maire de Nangou. Merci, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Salim Diouara. Et Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et tout. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Biro.
Halou de Mondi.
Chenne Biri. C'est qui qu'il faut pas.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.